Libre, la 58e émission. À Belle Guyenne, je reçois Charlotte Gut et Quentin est derrière la vitre. Charlotte Gut, vous êtes chef de mission de la MACI, c'est ça ?
C'est ça, exactement, la mission aménagement cyclable.
De la ville de Paris.
Ouais, de la direction de la voirie et des déplacements de la ville de Paris.
D'accord. Et ce poste, il a été créé, enfin, vous l'avez occupé tout de suite ?
Tout à fait.
Depuis combien de temps ?
Depuis un an et demi à peu près. Donc la mission et mon arrivée, c'était mars 2018.
D'accord. Mais vous étiez déjà à la direction de la voirie avant ?
Non.
Non, c'est au moment où vous avez été recruté pour ça ?
Tout à fait.
D'accord. Et donc, alors vous avez une formation, je suppose ?
Je suis ingénieur.
Ingénieur, une école Non, ma question, c'est pas l'école des ingénieurs de la ville de Paris.
Non.
Qui forme beaucoup des ingénieurs de la direction de la voirie.
Et qui forme beaucoup des ingénieurs de la ville de Paris, dont
oui.
la direction de la voirie. Effectivement,
oui, vrai,
le recrutement de la ville de Paris se fait principalement via sa propre école. Donc,
d'accord.
Voilà, la ville a sa propre école d'ingénieurs.
Dans quelle proportion ? Alors, quelles sont les...
Excellente question, mais je n'en ai pas la moindre idée.
C'est un grand nombre. Hein.
Oui, pratiquement tous viennent de l'EIVP. Évidemment, il y a quelques polytechniciens aussi.
Ouais.
On reste quand même sur des recrutements publics. Donc, c'est principalement des écoles qui forment les fonctionnaires.
D'accord. Parce que moi, j'ai tendance à critiquer un peu tout ça, des fois, parce que ça... Des fois, il y a des pesanteurs qui continuent pendant des années, même parfois des décennies, et même parfois des siècles.
Alors, il y a aussi quand même que la ville de Paris, au-delà de la DVD, c'est quand même une structure de... Je ne sais pas combien il y a d'agents, mais je crois que c'est à peu près 50 000 personnes.
Oui, c'est énorme.
Donc, on est quand même plutôt sur une structure de type grosse boîte du CAC 40.
Ouais.
Donc, c'est sûr que au-delà de la fonction publique, on ne peut pas être souple. On ne peut pas être extrêmement souple et agile quand on gère des ressources humaines aussi importantes.
Et puis, alors, ça a aussi des avantages. Hein, c'est que ça maintient... une certaine homogénéité, en particulier justement sur la voirie, un vocabulaire qui existe depuis... Alors là, pour le coup, depuis des siècles, des fois, il y a certains objets, quand on voit des photos qui ont 120 ou 150 ans, on voit les mêmes objets, les grilles d'arbres, des choses comme ça.
Donc c'est lié en partie aux ingénieurs de la ville et aussi en partie aux architectes des bâtiments de France qui veillent sur le caractère patrimonial de toutes les zones de Paris qui sont soumises... à leur avis, qui est une très grosse partie du territoire parisien. Donc forcément, l'objectif étant que le vocabulaire architectural soit préservé tout au long des évolutions de la ville, même si on l'adapte aux usages. Donc de fait, ça se voit. En fait. Effectivement, les grilles d'arbres, il y a quelques détails peut-être techniques qui ont changé sur la façon dont on les accroche, mais le côté esthétique a peu évolué, je pense.
D'accord. Alors, donc, vous êtes à la DVD depuis pas très longtemps. Avant, vous avez travaillé ailleurs ou...
Avant, oui, parce que je suis pas...
C'est pas ma première
expérience. Oui. Donc, avant, je travaillais dans un bureau d'études privé qui fait ce qu'on appelle de la maîtrise d'œuvre. Donc, je faisais de la conception et du suivi de la réalisation d'aménagement urbain.
D'accord.
Donc, pas spécifiquement de pistes cyclables, mais de tout ce qu'on aménage dans une ville.
D'accord. Et alors, pour chercher à vous connaître encore plus, vous êtes cycliste ?
Je suis cycliste.
D'accord. Ouais. Depuis longtemps ?
Depuis que j'ai emménagé à Paris, après 6 mois aux Pays-Bas.
D'accord.
Donc en 2010 à peu près. Donc je suis revenue m'installer à Paris. Au début, je n'avais même pas envisagé le vélo. Puis petit à petit, je suis venue au vélo parce que je suis pas parisienne et je voulais un peu appréhender la ville au-delà de juste les 500 mètres autour des stations de métro.
D'accord.
Donc j'ai décidé de commencer le vélo parce que j'avais un peu pris l'habitude à Rotterdam. Et puis, j'ai jamais arrêté, en fait.
D'accord. Donc, vous êtes une vélotaffeuse.
Tout à fait.
D'accord. Alors, maintenant, je voudrais qu'on revienne à l'organisation de la DVD, donc Direction de la Voirie des Déplacements de la Ville de Paris, parce que ça fait quand même pas mal d'années que la Ville de Paris fait des aménagements cyclables, mais cette structure, la mission des aménagements cyclables, elle n'existait pas. Vous savez comment c'était organisé avant ?
Alors... Oui, parce que c'était organisé de la même façon. Enfin, il y a juste moi, enfin mon service qui a été rajouté. La raison principale, je pense, de la création de ce service, c'est aussi que c'est la réponse en termes d'organisation de la DVD par rapport à l'objectif de mandat. C'est-à-dire, dans ce mandat, il y avait un engagement très fort sur le vélo, y compris financier. Et de fait, comme c'est un enjeu majeur de ce mandat-là, la DVD s'organise pour répondre aux objectifs qui ont été fixés par les élus.
D'accord, parce qu'on peut quand même dire que ce mandat, il a commencé en 2014, qu'en 2015, le Conseil de Paris a voté à l'unanimité en plein vélo et que en 2017, c'était quasiment pas commencé.
Alors, j'étais pas là. Donc, alors, oui, parce qu'il y a quand même des choses qui ont été faites hein, entre 2015 et 2017. De toute façon, il y a un temps dans l'élaboration des projets qui fait que les études sont assez longues et de toute façon, on commence par faire les études avant les travaux. Donc, de fait, on peut pas, enfin, c'est pas direct après la décision qu'on peut voir la décision se réaliser dans l'espace public. D'accord. Donc, il y a de toute façon un temps.
Et donc, quand vous êtes arrivé, il y avait quand même un certain nombre d'études qui étaient en cours, que vous avez matérialisées. Mais est-ce que vous pensez que la mission était aussi pour accélérer ce rythme ?
L'objectif, je pense, alors je ne suis pas forcément la mieux placée pour parler, parce qu'effectivement, je n'étais pas là avant, c'est un peu tout le principe, mais l'objectif était aussi d'avoir une vision plus globale sur l'ensemble des aménagements qui sont faits sur le territoire, et aussi d'essayer d'avoir un peu une cohérence dans les différents aménagements qu'on livre, parce que faire une piste cyclable, ça veut tout à rien dire. Il y a à peu près 10 000 façons différentes d'aménager quelque chose pour le vélo. Et on se retrouvait avec des choix qui n'étaient pas tout à fait cohérents sur l'ensemble du territoire. Alors notamment, c'était un peu le plus flagrant, sur des pistes qu'on avait territorialisées, mais qui traversent Paris de part en part. Et d'accord, donc, pour l'usager, il ne faut pas qu'on voit cette limite.
On va expliquer territorialisation, parce que donc, à Paris, il y a des sections territoriales de voirie.
Alors, oui, en fait, alors le Paris, c'est très grand, voilà. Et donc, pour se répartir, une partie des tâches sont réparties par arrondissement ou par section territoriale qui regroupe entre 3 et 4 arrondissements, entre 2 et 4 plutôt, donc qui correspond à une répartition géographique du territoire. Mmh. Et après, sur les plus gros projets, c'est pareil, on ne peut pas avoir 3 personnes qui vont étudier tous les projets parisiens, donc il y a une répartition des tâches entre les différentes personnes pour la mise en œuvre des gros projets. Donc ça fait qu'il y a une multiplicité des acteurs qui est obligatoire parce que c'est beaucoup, enfin, il y a plein de projets à faire, donc forcément, ça ne peut pas être une petite équipe, ça ne peut pas être 2 personnes, c'est forcément beaucoup de gens parce qu'il y a beaucoup à faire. Mais qui faisait qu'il y avait un peu un éclatement des choix, des décisions. Et voilà.
Ça veut dire, par exemple, qu'il peut y avoir des aménagements qui, sur le terrain, apparaissent comme un seul aménagement, en particulier pour le cycliste, et qui sont réalisés par 2 sections territoriales différentes.
Réalisés, surtout conçus.
Surtout conçus.
Conçus et réalisés par des gens, effectivement... par 2 équipes différentes et sans forcément qu'il y ait à l'époque, en termes au moment de la conception, de brainstorming commun.
D'accord. Fait. Et donc, une partie de votre job, c'est d'organiser ce brainstorming commun.
Oui, de faire en sorte que nos aménagements soient plus cohérents sur le territoire et aussi essayer d'organiser un retour des bonnes pratiques et des mauvaises pratiques pour essayer de gommer. On se dit les choses où on se dit finalement on aurait peut-être pu, si on avait fait comme ça, ça aurait pu être mieux. Essayer que on ait ce retour d'expérience pour petit à petit livrer chaque année de meilleurs aménagements aux Parisiens.
D'accord. Enfin, les mauvaises expériences, elles vous viennent spontanément sans que vous ayez besoin de les solliciter, non ?
Les retours sur les mauvaises expériences.
Ouais. Avec les réseaux sociaux en particulier ?
Alors oui et non, parce que on a des retours d'usagers, donc soit par les réseaux sociaux, soit des usagers qui nous sollicitent directement avec Paris J'écoute, par exemple, ou qui écrivent à la DVD, voire à la mer. Après, ça reste donc ça, on en a pas mal. Après, disons qu'on va voir qu'on a un souci dans un aménagement quand on a plusieurs fois la même remarque de plusieurs usagers différents. Et quand on a une remarque d'une personne, c'est un peu difficile. Surtout que, par exemple, on a des remarques parfois sur des cyclistes. Moi, je suis cycliste depuis 1975, j'ai pas besoin de cette piste cyclable, pourquoi vous faites ça ? Et donc, c'est une personne, c'est un avis, c'est son ressenti. Il ou elle, en l'occurrence, celui auquel je pense, c'était un monsieur, fait du vélo depuis 1975. Moi, j'essaye d'avoir de nouveaux cyclistes. Donc, en fait, pourquoi j'irais investir de l'argent pour lui ? Quelque part, il sera, dans tous les cas, il sera là en train de faire du vélo. L'intérêt de l'investissement public est assez faible. Mais du coup, son avis, il est important, mais c'est pas parce que lui s'exprime que d'autres... Donc, c'est un peu dur d'avoir des trucs très rationnels. On a un peu du mal. Là, on va essayer d'en avoir un peu plus.
Mais là, vous avez les associations qui vous...
Tout à fait. Donc ça, c'est assez précieux parce que ça permet d'avoir des avis un peu plus structurés parce qu'en général, ils essayent d'avoir le retour de leurs adhérents. ils en ont pas mal, hein, collectivement, entre les différentes associations. Donc, et puis, on voit quand même que sur certains projets, il y a des gens qui connaissent vraiment très bien finement le terrain sur lequel on fait le projet. Donc, c'est quand même assez intéressant d'avoir des retours assez proches des usagers.
D'accord. Alors, nos auditeurs attentifs et réguliers les connaissent bien, puisque je les interviewe régulièrement. Mieux se déplacer à bicyclette, Paris en selle, Vélorussion. Donc ça vous est extrêmement précieux. Hein.
Tout à fait.
Et alors, j'ai reçu également donc, de Paris en selle Simon Labouret et Rive Vasta, qui ont écrit un petit bouquin, donc je suppose qu'ils vous l'ont
J'ai reçu mon exemplaire dédicacé, ou... absolument.
Alors, qu'est-ce que vous pensez de ce travail?
Alors, je trouve déjà que c'est un travail assez conséquent et assez professionnel dans le rendu. Enfin, on sent qu'il y a vraiment beaucoup, beaucoup de travail, donc de la part de bénévoles, c'est quand même à saluer. Je l'ai trouvé aussi assez didactique dans l'explication de pourquoi on promeut telle ou telle solution. Après, dans le détail de chacune des solutions...
Vous n'êtes pas forcément d'accord toujours.
Non, je pense que la... on va pas converger sur, on va pas être d'accord sur toutes les solutions. Mais après, je pense pas que le but soit d'être d'accord.
Oui.
Je pense que le but c'est que chacun éclaire le débat et fasse son travail.
Oui,
et les militants et associations
aussi,
cyclistes sont là pour promouvoir ce qu'elles estiment être le plus important pour le vélo. Nous, même quand on aménage des pistes cyclables, on aménage la ville pour tous.
Oui.
Et forcément, ça fait que on peut pas faire les mêmes choix.
Oui, enfin, ils essayent quand même de tenir compte des autres usagers de la voirie, mais
tout à fait.
Ils sont pas porteurs de
mais par exemple, si on prend des exemples très précis, par exemple, leur proposition de profil en travers, c'est-à-dire d'implantation en Z de la piste, alors qu'ils souhaitent un niveau un peu intermédiaire entre le niveau auquel on met la chaussée pour les voitures et le niveau auquel on met le trottoir. Ça, c'est une remise en cause un peu majeure de la façon dont on aménage la ville à Paris depuis des siècles, comme tu le disais tout à l'heure. Ça, je pense que c'est quelque chose, pas pour une question de vélo, mais pour une question de préservation du patrimoine, on ne souhaitera pas faire à la DVD. Parce qu'on souhaite quand même avoir une... Et puis ça participe aussi, pour moi, de la lisibilité de l'espace public, c'est qu'il soit un peu tout le temps aménagé de la même façon. Est-ce qu'on va avoir l'impression de gagner en confort à certains endroits, comme on va... perdre en lisibilité par rapport au reste, on va peut-être y perdre. Voilà.
Là, vous faites allusion à l'aménagement un peu à la hollandaise, dans laquelle, de facto, la piste est plutôt vécue comme sur le trottoir. C'est ça, non ?
Ouais, alors au Danemark aussi, hein, à Copenhague, la piste, elle est un petit peu intermédiaire.
Oui, alors, justement, mais au Danemark, c'est relativement lisible avec ce système de mi-hauteur.
Oui, après, ce qui favorise beaucoup la lisibilité aux Pays-Bas, c'est la couleur de la piste.
Oui, c'est ça, voilà.
Pareil, qu'aujourd'hui, en tout cas, en l'état actuel à Paris... on n'arrivera pas à faire des pistes de couleurs partout dans Paris, ou en tout cas, si on arrive à le faire, ça va être dans les endroits périphériques, nous, sont, patrimoniaux moins importants.
Oui, donc s'il n'y a pas la même couleur un peu partout, on n'y arrivera pas du tout.
Encore une fois, c'est une question de lisibilité. S'il y a un endroit, on a fait une super piste, mais surtout par rapport aux voitures, parce que c'est vraiment le danger dont on essaye de se protéger. S'ils ont sur 500 mètres, ils ont une piste rouge, mais de toute façon, tout le reste qui est après, c'est encore différent. La compréhension, elle est limitée.
Merci Charles Dutte, on va faire une pause musicale.
Cause commune. 93. How many roads must a man walk down before you call him a man? How many seas must the white dove sail before she sleeps in the sand? Isn't how many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many years can a mountain exist before it is washed to the sea? Yes, and how many years can some people exist before they're allowed to be free? Yes, and how many times can a man turn his head and pretend that he just doesn't see? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many times must a man look up before he can see the sky? Yes, and how many ears must one man have before he can hear people cry? Yes, and how many deaths will it take till he knows that too many people have died? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind.
Rayon Libre, la 58e émission. Je reçois Charlotte Guth de la mission des aménagements cyclables de la direction de la voirie des déplacements de la ville de Paris. Là, j'ai tout dit. Hein.
Ouais, c'est un peu long.
Alors, donc, là, depuis 2 ans à peu près, là, on a mis le paquet.
Et un certain nombre... Ça se voit dans l'espace public.
Oui, ça se voit dans l'espace public. Ouais, on peut dire ça comme ça. Bah, moi, vous connaissez cette carte, non? Vous l'avez déjà vu?
Je crois pas.
Ah bon, bah, je vais vous l'offrir. C'est une carte que j'avais fait en 2008 des aménagements cyclables.
Je crois que je l'ai déjà vue.
Et je la distribue encore jusqu'en 2017 en disant aux gens, les gens me disent, ah bah 2008 c'est pas à jour. Bah, je dis malheureusement c'est encore très largement à jour. Alors maintenant ça l'est plus. Alors il y a un certain nombre de gens qui se plaignent qu'on a fait trop d'aménagements. Vous avez une opinion par rapport à ça?
Alors, qui? Parce que si ces gens sont automobilistes, oui. C'est pas étonnant qu'ils se plaignent qu'on y ait trop, puisque la plupart de nos aménagements réduisent la capacité pour les voitures.
Ouais, mais là, je vous parle des travaux, de la période des travaux. Et par exemple, le fait d'avoir fait en même temps les aménagements de la rue de Rivoli et des quais rive gauche, qui tous les deux mènent la circulation dans le sens...
Est-ouest, ouais.
Est-ouest. Est-ce que ça aurait pas été mieux de les faire à deux moments différents? Est-ce qu'on n'a pas été un peu vite parce qu'on a été un peu moins rapide avant?
Alors, on n'a pas vraiment analysé dans le détail quel a été l'impact finalement d'avoir tous ces travaux de manière concomitante. Alors, sur la rue de Rivoli, l'impact principal... en fait, la partie actuelle, les derniers mois, qui était en même temps que la rive gauche, il laissait quand même une file de circulation qui est à peu près la même chose qu'à rue Saint-Antoine. Donc, en fait, l'impact sur la circulation n'était pas majeur.
Oui.
C'est sûr que la fermeture, par contre, la rue de Rivoli, quand on l'a fermée l'été dernier, l'impact était quand même... plus important, mais là, à ce moment-là, rive gauche, on avait moins
ça
de travaux.
Donc ça, vous faites. Donc vous pensez pas qu'on a fait un petit peu trop vite? Non, alors je vais poser ma question autrement. Est-ce que ça vous aurait arrangé d'avoir un petit peu plus de mou dans la conduite des travaux?
Alors, je pense qu'il y a plusieurs difficultés au fait de faire tous ces travaux en même temps. Il y a effectivement que les différents usages de l'espace public sont très modifiés. Mmh. Donc, il n'y a pas que les voitures, hein, parce que c'est aussi compliqué pour les piétons.
Absolument.
Pour les bus, principalement pour les bus. Et c'est vrai que je pense que ça a été dur à vivre pour les Parisiens, probablement, et pour les Franciliens qui se déplacent à Paris. Ça a été aussi un peu dur pour nous en termes d'organisation des chantiers, parce que derrière, c'est des approvisionnements, des équipes. Voilà, après, ça permet que, quelque part... le désagrément, il est plus limité dans le temps.
Oui, c'est ça. Oui, mais alors justement, parce que là, on rentre en période électorale, donc vous avez forcément un devoir de réserve.
Tout à fait.
Mais ce que j'aimerais savoir, parce que ça éclaire aussi l'avenir, y compris pour l'ensemble des candidats, pour qu'ils ne fassent pas... en ce moment, c'est quand même la période de certaines revendications irréalistes, et ça vaut le coup de demander à tous les candidats de ne pas en faire. Vous voyez ce que je veux dire?
Alors,
ouais.
si on va dans le futur, ça, au-delà de... il reste qu'il y a une échéance importante dans les aménagements en Île-de-France, au-delà de Paris, c'est 2024.
Oui, oui, mais alors justement, là, il va y avoir une petite pause, comme ça se fait habituellement, un peu avant les élections municipales. Est-ce que vous avez déjà un certain nombre d'études pour pouvoir démarrer dès maintenant, c'est-à-dire dès après les élections, justement en particulier pour qu'en 2024, il y ait les équipements qui seront nécessaires?
Alors, on ne les a pas encore. Donc là, on a beaucoup travaillé pour les travaux qui ne sont pas tous finis, donc on travaille encore pas mal. On va probablement se lancer effectivement dans une nouvelle phase d'études pour être en mesure, alors d'études sur des éléments qui ont déjà été votés au Conseil de Paris, hein, dans le schéma directeur 2015-2020. Donc on va pouvoir se lancer dans cette renouvelle phase d'études d'ici quelques mois, je pense, dans le trimestre. Après, on va aussi, surtout, je pense, mettre à profit cette période pour analyser ce qu'on a fait de manière un peu plus poussée que juste trois retours d'usagers, ou enfin, j'exagère un peu plus, mais à partir de retours un peu partiels d'usagers, essayer de faire des analyses un peu plus poussées sur les différents aménagements qu'on a faits pour voir ce qui fonctionne le mieux, ce qui fonctionne le moins bien. Avoir des analyses aussi, pas que sur les cyclistes, hein, mais observer aussi comment se comportent les piétons, les voitures, y a-t-il des effets sur le bus, sur différents aménagements. Donc une phase d'analyse, forcément, qui prend du temps et qui, pendant cette phase d'analyse, nous, comme ça nous prend du temps, on ne va pas produire forcément beaucoup d'études. Après, elle me semble importante pour que nos prochaines études soient de la meilleure qualité possible pour les Parisiens.
Oui, mais alors justement, est-ce que ça aurait pas été mieux d'être un peu moins le nez sur le guidon pour pouvoir produire ces réflexions au fur et à mesure?
Alors, peut-être. Après, il faut, pour avoir un travail d'analyse, il faut quand même être intellectuellement disponible pour ça.
Oui. C'est des phases différentes.
C'est un peu difficile pour nous, enfin même pour moi à titre personnel, hein, d'être à la fois le nez dans le guidon de il faut livrer, il y a tel panneau à poser à tel endroit, et en même temps avoir prendre du recul et se détacher pour dire ok, être vraiment dans le calme nécessaire à l'analyse. Donc même s'il avait fallu le faire, je ne sais pas si j'aurais été très performante parce que je...
D'accord. Ouais. Alors maintenant, dans l'horizon 2024 Jeux Olympiques, est-ce que vous avez déjà des choses très précises?
Alors précises, non, mais on a des discussions là vraiment au niveau alors moi au niveau service technique, encadré par la Pure, avec entre nous et le 93, pour aménager des itinéraires qui soient connectés entre Paris et le 93, pour desservir les sites parisiens.
Mais alors, parce que alors moi j'ai un peu regardé sur différents sites, c'est un peu compliqué de s'orienter entre les différents sites, mais pour le moment j'ai pas une impression très positive. Et il me semblait qu'un certain nombre d'annonces qui avaient été faites au moment de la candidature consistaient en gros à dire qu'entre le village olympique et les différents équipements de Saint-Denis, d'Aubervilliers et tout ça, le village de la presse au Bourget, qu'en fait on pourrait faire ça à vélo. Moi je voyais quand même...
Alors,
des Jeux Olympiques,
il y a ce travail qui est fait sur les qui s'appelle des boucles, hein, qui permettent de desservir les sites. Après, pour l'instant, là, on en a un travail de niveau technique, hein, vraiment de savoir où est-ce qu'on met les aménagements, combien ils coûteraient si jamais on les fait, etc. Après, il y a le travail des élus, hein, sur le sujet. Donc ça, je maîtrise pas très bien et je connais pas trop, donc je me prononcerai pas. Après, est-ce que ça dessert les sites? Moi, j'avoue, de manière strictement dans mon travail, je me suis contenter de regarder à la limite entre Paris et le 93 comment on arrivait à faire connecter nos choses. Le détail de ce qui est desservi dans le 93, j'ai pas regardé. Mais l'idée est bien de desservir les différents sites.
Oui, mais ça veut dire... il y a un nombre de sites dans Paris qui sont importants. Le village olympique, il se trouve à distance cyclable de la limite de Paris et d'un certain nombre de ces sites. Est-ce que c'est envisageable qu'un athlète qui viennent aux Jeux Olympiques puissent se rendre à vélo à son
lieu
de compétition.
Je pense que ça le sera.
D'accord.
On travaille pour
et non, hein,
par les athlètes. Après, je pense que ça s'adresse quand même plutôt au public, aux journalistes. Les athlètes, je ne sais pas suivant quelles conditions de sécurité ils se déplacent en fait.
Les journalistes?
Non, les athlètes.
Ouais.
Donc je ne sais pas. Oui. Je ne peux pas vous répondre. Les journalistes, il faut bien qu'ils se déplacent aussi d'un site à l'autre. S'ils peuvent le faire à vélo, tant mieux.
Oui. Oui, mais enfin, moi, je, bah, vous voyagez comme moi et vous remarquez que, suivant les endroits où on va, le déplacement, si on décide de se déplacer à vélo dans telle ou telle ville, c'est plus ou moins facile. Donc, comme ces Jeux Olympiques sont présentés comme hyper écolo, ce serait bien qu'on puisse présenter aux différentes personnes, touristes, journalistes. Et...
C'est un travail qui est en cours.
Eh bien, Charlotte Gut, c'était donc le 58e numéro de Rayon Libre. Merci. Quentin était aux manettes. Abel Guggenheim, Rayon Libre.